avec vous, Marilyn. Est-ce que vous êtes vraiment surprise que Kevin McCarthy perde son boulot après seulement 10 mois?
Non, je ne suis pas surprise. On n'est pas surpris parce qu'au départ, il a été élu avec énormément de difficultés. Et d'autre part, vous avez un petit groupe, une petite minorité. Ils ne sont que 8 en fait. Mais ils sont extrêmement bruyants. Il s'agit des conservateurs purs et durs et qui en veulent à McCarthy sur plusieurs points, en particulier sur l'aspect budgétaire.
Jean-François Cesnègue, les élus de la Chambre des représentants, ils s'étaient donné 45 jours pour aplanir leurs divergences sur le budget. Kevin McCarthy, est-ce qu'il avait raison de faire adopter ce budget temporaire, sachant quand même qu'il risquait de s'attirer la colère de ces élus de l'extrême droite?
Oui, effectivement, je pense qu'il a eu raison de le faire parce que ça prouve quand même que des deux côtés, des deux parties, il y a des gens qui veulent travailler pour l'intérêt des citoyens américains. Et c'était pas dans l'intérêt des citoyens américains de bloquer le gouvernement. Donc il a bien fait, mais bien sûr il a été sacrifié. Et là où c'est un peu surprenant, c'est qu'en fait il a été sacrifié par les démocrates. Parce que si un petit nombre de démocrates avaient accepté de voter pour lui comme speaker, il aurait pu passer relativement facilement, parce qu'il n'y a que 8 républicains qui ont voté contre lui. Et donc ça, je pense que ça rend la situation extrêmement complexe.
Alors justement, René Lake, il avait fallu 15 tours de scrutin pour élire Kevin McCarthy à la tête de la Chambre au mois de janvier, et avec un début aussi difficile. La débâcle du 3 octobre était-elle inévitable? Et sur quoi comptait-il justement s'appuyer pour renforcer son leadership? Parce qu'il semblait, le week-end, il semblait un peu optimiste quand même.
Oui, tout à fait, Abdulrahman. En fait, c'est une conséquence logique, vous l'avez bien indiqué, c'est 15 tours pour se faire élire. Mais vous savez, tout ça, c'est l'expression d'une crise beaucoup plus profonde, d'une crise existentielle du Parti républicain. Elle ne date pas d'aujourd'hui, tout a commencé dans les années Obama avec le Tea Party. Ensuite, comme vous vous en souvenez, Bonner, l'ancien speaker, a dû quitter son poste. Après, ça a été Paul Ryan. Aujourd'hui, c'est McCarthy. Donc la situation reste la même. Vous êtes dans une situation au niveau du Parti républicain où une petite minorité d'ultra-droite est en mesure de dicter le jeu. Donc il y a un véritable problème de gouvernance. Le Parti républicain, en l'état actuel, a de très très grosses difficultés à pouvoir gouverner et est obligé donc d'utiliser des mécanismes quasi autocratiques pour pouvoir, des mécanismes techniques quasi autocratiques pour pouvoir fonctionner et rester dans le jeu. Donc la crise de gouvernance aujourd'hui aux États-Unis, et notamment du fait de la situation politique des partis républicains, est extrêmement profonde.
Et Marilyn Suffolk et Jean-François Cesnègue le disaient tantôt, les démocrates à la Chambre ont-ils eu vraiment raison de lâcher McCarthy? Certains estiment que s'il a perdu son boulot, c'est parce qu'il s'est allié aux démocrates pour faire adopter ce budget à court terme.
Oui, il s'agit aussi peut-être d'une vengeance à propos du impeachment que l'on voulait, que les républicains souhaitaient en ce qui concerne Biden. Donc il ne pouvait pas obtenir la confiance des démocrates, ça c'était sûr.
Mais quand même, il a fallu le vote des démocrates pour passer ce qu'ils appellent le CR, ce budget temporaire qui a permis au gouvernement de fonctionner aujourd'hui. Et après, c'est comme une trahison de l'avis de certains. Vous êtes d'accord?
Oui, certains pensent qu'il s'agit d'une trahison de la part des démocrates, que les démocrates auraient pu faire l'effort de
le sauver
pour justement éviter que un nouveau président de la Chambre soit élu et qu'il soit extrêmement conservateur.
Jean-François Cesnègue, que pensez-vous justement de la posture des démocrates et de l'avenir? Est-ce qu'un prochain président de la Chambre républicain pourrait faire confiance à ces démocrates?
Mais écoutez, je pense que en fait, ça ne va pas changer grand-chose ce qui s'est passé, parce que les démocrates ont un peu le même problème que les républicains. Pour le moment, ils sont en minorité, mais si par hasard ils avaient la majorité, pour une façon, d'une façon ou d'une autre, ils ont quand même une aile extrême gauche qui est aussi essaye de contrôler le système autant que l'aile d'extrême droite des républicains. Donc ils sont un peu coincés. Et là, je ne sais pas quel a été le calcul ou quel est le calcul du leadership démocrate en ce moment, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font en lâchant McCarthy. Ça crée le problème et ça ne fait que reporter le problème budgétaire de 40 jours. Et il y a 40 jours ne suffiront pas pour résoudre le problème. Donc maintenant, on a encore une très bonne chance d'avoir un arrêt du gouvernement dans 40 jours. Donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre un petit peu la réflexion démocrate en ce moment, mais il y a certainement une raison pour laquelle ils ont fait ça.
René, pour vous, la raison, c'est quoi ?
Oui, écoutez, je ne sais pas, moi je ne pose pas le problème en ces termes. La question n'est pas de savoir ce que les démocrates font ou vont faire. La question, c'est que les républicains puissent redevenir un parti qui soit dans le jeu de la gouvernance. Et donc, c'est aux républicains de régler la question du contrôle de cette aide ultra droite qui aujourd'hui refuse, va jusqu'à rejeter même l'aide en Ukraine. Je sais qu'on va en parler à Bloorman. Mais il y a un véritable problème de gouvernance du côté des républicains, et en aucun cas ce n'est le problème des démocrates de chercher à résoudre une telle situation.
Mais ils font partie du Congrès, et avec cette courte majorité des républicains, il va falloir travailler avec les démocrates, non ?
Absolument. Donc on est dans une opération de partage de pouvoir, dans une opération de consensus, il n'y a pas de doute. Mais comme vous savez, Kevin McCarthy n'a pas été connu pour quelqu'un qui excellait en la matière, et n'a pas donné beaucoup de gages en la matière aux démocrates. Bien au contraire, il est allé à l'encontre de décisions qu'il avait prises avec la Maison Blanche il y a juste une semaine. Donc il n'y a aucune raison que les démocrates ne cherchent à le sauver. Le problème de McCarthy, vous savez, c'est qu'il est en problème de confiance à la fois chez les républicains et à la fois chez les démocrates. Donc c'est difficile de pouvoir gouverner de manière consensuelle quand on est dans une telle posture.
D'accord. Marilyn Sifocle, comment entrevoyez-vous un peu la bataille pour le perchoir ? Vous avez un profil ?
Alors, un petit peu plus tôt, on a dit que les républicains et les démocrates avaient à peu près le même problème, c'est-à-dire que les républicains avaient un problème avec leur aile droite très conservatrice, et que les démocrates avaient peut-être le même problème avec l'aile gauche du parti démocrate. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Moi, je pense que le problème des républicains est beaucoup plus profond que celui des démocrates. Les républicains sont prêts à casser les codes, à complètement renverser le système pour pouvoir prouver quelque chose.
Je pense qu'en termes de gouvernance, quand même, les démocrates aussi ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant certaines questions, n'est-ce pas ? Je pense que c'est un peu ce que M. Sesnek voulait souligner.
Oui. Ils ne sont pas prêts à découdre avec le système. Par contre, les républicains, il y a une aile du parti républicain, l'aile extrêmement conservatrice, qui est prête à en découdre avec le système. Ils veulent carrément briser le système, et ils ont, si vous voulez, et ça tout le monde le dit, des tendances fascistoïdes, ce qui fait que on est dans un cas de figure complètement différent.
Monsieur Sesnek, vous voulez réagir à cela ?
Non, parce que c'est en fait la façon de percevoir les choses sont un peu différentes dans nos deux cas. Et je pense que j'ai pas grand chose à rajouter, parce que ce que dit Marilyn, bien sûr, est très vrai, mais on peut pas forcément voir les choses de la même façon.
Et vous avez, au vu de, disons, la configuration actuelle du Congrès, la bataille déjà s'annonce rude pour le perchoir. Qui voyez-vous comme leader, disons, peut-être la semaine prochaine ?
Ben écoutez, moi je pense que il y a les deux candidats principaux, Jordan et Scalise. Il paraîtrait qu'il y a un troisième candidat qui s'appelle Hearn, qui est beaucoup moins extrémiste et plus centriste, et qui pourrait peut-être avoir plus de support d'abord de la majorité républicaine, mais aussi d'une partie des démocrates. Donc peut-être qu'il pourrait passer, mais il faudrait vraiment que les démocrates soient d'accord pour pousser ce monsieur Hearn. Et on va voir ce qui se passe. J'avoue que c'est très inquiétant quand même.
René, avant d'aller à la pause, qui chez les Républicains pourrait à la fois satisfaire cette aile dure du Parti Républicain, mais également être en mesure de travailler avec les démocrates?
Oui, écoutez, Abdourahmane, il y a certainement Jim Jordan, qui lui-même est perçu comme un faucon par de nombreux démocrates. Sid Scalise, lui également, a des atouts, c'est le numéro 2, de facto le numéro 1, maintenant que McCarthy n'est plus aux affaires, c'est le leader de la majorité. Donc ce sont les deux principaux challengers, à mon avis, au moment où l'on parle. Et tous les deux, leur difficulté première, c'est de pouvoir trouver des accords avec cette ultra-droite avec laquelle ils travaillent. Et ça va être particulièrement difficile. Mais à mon avis, aucun de ces deux n'aura le soutien de démocrates. Ça me paraît l'évidence.
D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires de téléspectateurs et d'auditeurs laissés sur la page Facebook de VO Afrique. Archiduc Théodore Ndjamena nous dit que le rejet de l'aide militaire à l'Ukraine est une mesure favorable pour le paiement des rubriques importantes dédiées aux Américains, car il n'y a pas de valeur ajoutée dans cette aide à l'Ukraine. Alphonse Mbouaki à Kinshasa écrit qu'il est dans l'intérêt de l'Amérique de freiner l'élan expansionniste de la Russie vers des territoires indépendants, car elle viole le droit international et la souveraineté des États. Et Yao Marcelin Kofi à Abidjan. Le président Biden rejette toute idée de fermeture du gouvernement fédéral alors qu'il n'entend pas freiner l'aide militaire à l'Ukraine. Vivement que les fonctionnaires américains ne soient pas confrontés à un quelconque chômage technique. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités. Ici à Washington, Marilyn Sifok, le professeur de langue à Howard University, à Annapolis dans le Maryland, Jean-François Seznec, politologue et directeur de Lafayette Group, et toujours dans la capitale fédérale américaine, René Lec, analyste politique. Alors, Marilyn, pour parler un peu du budget lui-même, ce qu'on peut appeler l'aile de Matt Gaetz, hein, veut des coupes sombres, notamment sur les dépenses sociales et l'aide à l'Ukraine. Les démocrates ont-ils les moyens d'empêcher ces coupes dans le prochain vote qui est prévu peut-être à la mi-novembre?
Alors là, ça demeure un véritable mystère. Est-ce qu'ils pourront éviter ces coupes? Alors dans ces cas-là, il y a toujours, c'est toujours un petit peu, si vous voulez, du donnant-donnant. Il y a toujours une ligne budgétaire qui saute en faveur d'une autre. Donc je pense que le cas de figure ne va pas changer.
C'est pour ça qu'il est important pour les démocrates de se battre pour avoir quelqu'un qui peut trouver un consensus, non?
Absolument.
Alors, Jean-François Seznec, le président Joe Biden promet de ne pas lâcher l'Ukraine. Est-ce qu'il pourra tenir sa promesse, selon vous, surtout qu'une partie de l'opinion semble quand même exprimer une certaine lassitude concernant l'Ukraine?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a une lassitude parce que ça fait déjà un peu plus d'un an que ça dure et Ça coûte extrêmement cher à l'État, alors qu'on a des déficits énormes. Mais d'un autre côté, on est obligé, on ne peut pas lâcher l'Ukraine et donner raison au président Poutine, parce que ça ne fera que créer des problèmes plus tard en Europe. Donc je pense qu'effectivement, la majorité au Congrès à long terme va voter pour l'Ukraine, mais il va y avoir des batailles très importantes parce que, effectivement, la lassitude commence à prendre place.
Alors, René, l'avenir de l'Ukraine, disons, le financement de l'Ukraine, pour vous, c'est quoi dans tout ce contexte?
Mais écoutez, ça va être encore une question entre républicains, parce qu'une bonne partie, la majorité des républicains au Congrès soutiennent une prolongation de l'aide, un prolongement de l'aide à l'Ukraine. Ce n'est pas le cas, comme on l'a dit, de cette ultra-droite. Et donc, le problème va se poser au prochain speaker de la Chambre. Donc, il va y avoir une difficulté pour les républicains à se positionner. Alors, sur ce point, il faut dire que, de ce point, l'avantage que l'ultra-droite a sur cette question précisément, c'est que, effectivement, dans l'opinion publique, au niveau des républicains, le soutien à l'aide militaire à l'Ukraine baisse. Hein, dans le Washington Post aujourd'hui, je crois, c'est 38% pour les républicains contre 69% pour les démocrates. Donc, effectivement, il va y avoir là un problème politique qui va se poser aux Ukrainiens. Mais comme vous l'avez entendu hier, Biden lui-même, quand on lui a posé cette question, a indiqué très clairement qu'il y a d'autres mécanismes, j'imagine, au niveau de l'exécutif, qui permettront de suppléer à cette déficience éventuelle du Congrès. Donc je ne m'inquiète pas outre mesure de ce point de vue.
Dans ce contexte, c'est des élus républicains de plus en nombreux qui demandent plus d'investissements pour protéger la frontière sud. Selon eux, plutôt que d'aider un autre pays, l'Ukraine en l'occurrence, à protéger ses frontières. Comment est-ce que les démocrates peuvent répondre à cela, surtout dans le narratif préélectoral?
C'est une excellente question, Abdourahmane. C'est la grande question, hein, cette question de l'immigration. Et la situation à la frontière sud en particulier est extrêmement inquiétante. Vous avez vu ce matin, l'administration a finalement décidé sur à peu près, je crois, 20 miles, donc à peu près 30 kilomètres, de renforcer le mur, alors que Biden avait dit lui-même qu'il ne construirait pas un mètre de mur pendant son mandat. Donc c'est des questions très très difficiles, et politiquement, il y a un danger à la fois pour les démocrates que pour les républicains. Mais la question de l'immigration, comme vous savez, ne pourra pas se régler en dehors d'une approche consensuelle. Et malheureusement, la polarisation de la vie politique américaine ne le permettra pas dans l'immédiat.
Marilyn, justement, sur cette question qu'on voit sur les sites conservateurs, c'est un peu une sorte d'opposition, voilà, open border, comme on dit, la frontière est ouverte, grande ouverte, on a des dépenses sociales à faire, et en même temps, on veut aider l'Ukraine. Comment est-ce que les démocrates doivent naviguer tout cela?
Ben, les démocrates doivent surtout marquer la différence entre les problèmes à la frontière et la guerre entre l'Ukraine. Il n'y a pas d'équivalence, si vous voulez. D'une part, il s'agit d'une question de guerre entre deux pays en Europe de l'Est, et d'autre part, il s'agit de préserver les frontières. Donc il ne peut pas y avoir d'équivalence, et c'est exactement ce que les républicains essayent de faire. Ils essayent de présenter le problème en termes d'équivalence. Il s'agit pour l'Ukraine aussi, côté Ukraine, il s'agit de préserver un système et de préserver aussi des principes fondamentaux des droits internationaux, c'est-à-dire qu'un pays ne peut pas carrément envahir un autre pays simplement pour acquérir des territoires. Ça, c'est un principe fondamental qui a été posé à l'ONU, et donc ce n'est pas pouvoir présenter cela et comparer cela au problème d'immigration, c'est un faux problème, si vous voulez. Et il faudrait que les démocrates puissent insister sur le fait qu'il s'agit d'une équivalence qui n'existe pas.
Et Jean-François Cesnay, comment est-ce que vous voyez les prochaines batailles, surtout concernant les programmes sociaux et l'immigration?
Je pense que ce que vient de dire Marilyn est très vrai, mais le problème, c'est que ça va être utilisé, le problème de l'immigration vis-à-vis de l'Ukraine va être utilisé par Trump très très fortement pour dire que il faut absolument que on contrôle l'immigration et que si ça se fait au coût de l'Ukraine, ben c'est ce qu'il faut. Et je pense que malheureusement, ça va lui donner énormément de support dans une grande partie de la population, parce que la grande partie de la population voit les problèmes à la frontière mexicaine, et les problèmes de l'Ukraine sont des choses très abstraites en fait. Et on peut voir aussi que le président Trump, quand il était président, était en fait très fortement influencé par Poutine. Et je pense que ça n'a pas changé, et il va en profiter, si vous voulez, pour non seulement continuer à supporter Poutine, mais à faire un petit peu la politique que Poutine voudrait que les États-Unis fassent, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose pour les États-Unis, mais quelque chose qui est compris plus facilement par une grande partie de la population.
René?
Oui, écoutez, je suis relativement d'accord avec tout cela, mais je crois qu'en dernier ressort, en termes de politique intérieure, ni les républicains ni les démocrates ne gagneront à se démarquer de l'aide américaine à l'Ukraine, parce que là, ce n'est pas là où se trouve la population, l'opinion publique. L'opinion publique soutient cette aide-là en majorité, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, le taux a baissé. Les républicains, à l'époque, les républicains ont démarré à pratiquement 70%, je parle là globalement, et maintenant on est un peu plus de 50%, mais on reste quand même au-dessus des 50%.
Marilyn, on ne parle pas beaucoup de ces programmes sociaux qui sont importants pour les démocrates dans ce contexte. On parle d'immigration, on parle de l'Ukraine.
Oui, on parle de...
Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu la connexion avec Marilyn. On a 30 secondes, Jean-François Cesnay, sur ces questions des programmes sociaux, en 30 secondes.
Oui, effectivement, les programmes sociaux passent un peu à travers de tout ça et ne vont pas forcément obtenir le support qu'ils méritent ou qu'ils ne méritent pas, si ça dépend d'une position ou d'une autre, mais il va y avoir des problèmes sur les problèmes sociaux qui vont passer vraiment au second plan.
Alors, en tout cas, ce sera un débat à suivre. Les semaines à venir seront très intéressantes pour nous autres observateurs de la scène politique américaine, pour vous et bien entendu. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci énormément à mes invités. Merci également à vous qui nous suivez à travers nos télépartenaires sur le continent et sur nos plateformes digitales, Facebook, également sur YouTube. Beaucoup de, disons, merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.
Attention, attention, chers passagers de tout horizon, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Après une longue pause, l'émission radio la plus captivante et divertissante sur VO Afrique est de retour en studio 2. c'est le RM Show. Préparez-vous à voyager avec nous dans un univers sonore unique, oui, où se mêlent musique, anglais, blagues du jour, actualité, interview, débat et bien plus encore. Vos brillants animateurs seront là pour vous offrir des heures de divertissement sans fin. Alors n'attendez plus, branchez-vous sur le RM Show et laissez-vous emporter par la magie des ondes chaque soir entre 20h et 21h temps universel. RM Show, c'est pas une émission, c'est une expérience.